vous invite à vous tourner dans vos Bibles au livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 36. On va voir, on le sait, depuis qu'on étudie ce livre, le livre du prophète Ésaïe, que la persécution n'est pas une chose nouvelle. Paul nous explique le pourquoi du comment dans Éphésiens en disant que nous ne combattons pas contre la chair et le sang en tant que chrétiens, mais dans Éphésiens 6:10, il nous dit que nous combattons contre les principautés. Ce n'est pas Monaco, nécessairement, quoi qu'il y ait sans doute des principautés spirituelles là-bas, mais il s'agit du domaine spirituel, des principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, les esprits du mal dans les lieux célestes. Et on va voir dans le récit de ces chapitres qui viennent. Il y a 4 chapitres qui forment une espèce de transition avec le reste du livre du prophète Ésaïe. À partir du chapitre 40, on verra un autre centre. On va parler vraiment du serviteur souffrant, la consolation d'Israël. On va parler de Jésus encore plus directement. Le royaume de Salomon, le royaume juif de Salomon avait été divisé en 2 à sa mort, avec au nord la Samarie, au sud Juda. La capitale au nord c'était Samarie justement, c'était Israël, le royaume du nord, au sud le royaume de la capitale Jérusalem. Et à chaque période de l'histoire correspondent des grandes puissances qui veulent avoir encore plus de puissance. Ça, c'est un problème de l'homme. Il ne se satisfait jamais de ce qu'il a. Il veut toujours plus. Et on a ainsi eu des grands empires qui se sont disputés l'hégémonie, le règne du monde. Et à l'époque d'Ésaïe, le grand royaume, c'était au départ l'Assyrie. Le royaume d'Assyrie qui avait la capitale de Ninive et qui se sentait menacé par le royaume des Égyptiens, par l'empire égyptien qui était donc dans l'époque, géographiquement au même endroit que l'Égypte actuelle. Et le grand empereur des Assyriens à l'époque, ou du moins son successeur, c'était un dénommé Sennachérib, on va parler de lui dans ce chapitre. On trouve les mêmes événements décrits dans le livre des Rois, dans 2 Rois 18 et 19, et aussi dans les Chroniques, dans 2 Chroniques 32. C'est toujours intéressant d'aller lire ces autres passages, voir si on ne peut pas glaner quelques informations qui ne seraient pas dans le texte que nous avons. On ne le fera pas tous ensemble, mais je mentionnerai certains détails qui sont dans d'autres récits. Et en fait, ces 4 chapitres de 36 à 39, il y en a 2 qu'on va essayer de voir aujourd'hui rapidement qui parlent de la menace assyrienne et de la victoire des Juifs ou la victoire de Dieu pour protéger son peuple. Et ça va conduire à la deuxième phase. L'empire assyrien va être remplacé au niveau de l'hégémonie mondiale par l'Empire de Babylone. Et malheureusement, on va voir que Babylone va finir par emmener en exil, détruire Jérusalem et emmener en exil le peuple de Juda. Et vous dites, j'étais pas venu ce matin, peut-être que comme Élie, vous dites, je voulais jamais mettre les pieds ici, j'aurais jamais dû venir, qu'est-ce que je vais m'embêter à écouter une histoire qui parle de l'Empire assyrien il y a des milliers d'années, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce qu'on va manger à midi d'abord? Et puis cet après-midi, je vais voir tel ami. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. En fait, ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous, pour qui la fin des temps est arrivée. Alors certains disent la fin des temps, depuis le temps qu'on en parle, on est toujours un jour plus près de la fin des temps. Et il semble, d'après les événements qui correspondent à des prophéties bibliques, que cette fin des temps, ce retour de Jésus pour son Église, cette période de la grande tribulation, on n'en soit plus très loin. La Bible nous met en garde de ne pas prédire de date, parce que même Jésus ne sait pas exactement la date. Seul le Père la connaît. Mais c'est fascinant de lire la Bible avec le journal à côté. Et aujourd'hui encore, vous ne pouvez pas y couper, les grandes nouvelles, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est la paix, c'est Gaza, tous ces noms que vous retrouvez dans la parole de Dieu. Ça devrait mettre au monde la puce à l'oreille, que la Bible, elle est pertinente. Ce n'est pas un vieux livre poussiéreux qui raconte des histoires bonnes pour faire des découpages à l'école du dimanche et des marionnettes et des choses comme ça. Non, la Bible, elle est là pour vous instruire, pour vous enseigner. Voilà, on va essayer de progresser un peu rapidement aujourd'hui. Sennachérib vient contre Jérusalem. Verset 1, la 14e année du roi Ézéchias, c'était le roi de Juda à Jérusalem, un bon roi. Sennachérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, le Rabshaké. Lachish, ça n'a rien à voir avec la Lorraine, mais maintenant vous en rappellerez. Lachish était une ville qui se trouvait à 50 km au sud-ouest, pas loin de la bande de Gaza, ou à la frontière de la bande de Gaza d'aujourd'hui. Et puis il y avait le Rabshaké. Alors le Rabshaké, vous allez en entendre parler plusieurs fois. Si vous avez déjà lu ce passage, si vous l'avez entendu exposer, vous savez, vous reconnaissez ce terme de Rabshaké. C'est un terme qui désigne une position. Il y avait dans le livre des rois, je crois, 2 rois 18, il est question de deux autres personnages. Il y avait le Tartan qui voulait dire le second après le roi. Il n'avait rien à voir avec l'Écosse, mais c'est le même mot, Tartan. Il y avait le Rab Saris, lui c'était le grand eunuque, hein, position de fonctionnaire, de haut fonctionnaire. Et puis le Rab Shaké, c'était le grand échanson, et c'était aussi un grand personnage dans le gouvernement de la Syrie. Vous trouvez peut-être ça un peu bizarre de parler du grand échanson, mais en Angleterre, le ministre des Affaires extérieures s'appelle le chancelier de l'échiquier. En France, le ministre de la Justice s'appelle le garde des Sceaux. S-C-E-A-U-X, pas S-O-T-S, hein, des fois on se demande, mais... Donc c'est une coutume que de donner un titre un peu qui vient d'une origine antique ou ancienne, historique, à des postes de représentants du roi. Donc c'était en fait un ambassadeur, un gouverneur militaire qui était à la tête de l'armée qui assiégeait la ville de Jérusalem. Celui-ci se plaça, le Rabshaké, se plaça à l'aqueduc du bassin supérieur sur le chemin du champ du teinturier. On en a déjà parlé de cet endroit. En fait, c'était la source d'eau, l'alimentation de Jérusalem. À l'époque, quand on faisait une invasion, ou plutôt un siège d'une ville, on attaquait une ville, on n'était pas là, toutes les armées autour, là, puis d'un seul coup, on crie « Allez, à l'assaut !» Courez. Non, parce que là, comme vous avez vu les films du Moyen-Âge, il était très facile de défendre une ville avec des murailles. Il suffisait de faire tomber des tas de choses depuis le haut des murailles. Et la solution pour capturer une ville, c'était pas de l'attaquer brutalement en un seul coup, c'était de l'assiéger et d'attendre. Plus permettre l'approvisionnement extérieur. Donc si la ville assiégée avait des sources d'eau, elle pouvait tenir longtemps. Et là, on voit qu'en fait, le Rabshaké, il a accès à la source d'eau de Jérusalem, ce qui montre qu'il est, vraiment en position de force. Il pourrait d'un seul coup dire « je repars pas et je bloque l'eau et on va vous assiéger et vous n'aurez même pas d'eau ». Verset 3, « Alors Éliakim, fils de Hilkiyahu, rien à voir avec le serveur internet, intendant du palais, sortit vers lui avec Shebna, secrétaire, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste. Le Rabshaké leur dit, « Dites, je vous prie, à Ézéchias, ainsi parle le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre un conseil et de la force. » Et maintenant, en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? On sait par les autres passages que le roi Ézéchias avait décidé de ne plus payer de rançon, de tribut au roi d'Assyrie, qui agissait un peu comme la mafia de l'époque en disant « on va te protéger si tu nous verses une rançon chaque année ». Et Juda avait décidé de refuser de payer cette rançon, comptant sans doute sur le soutien de l'Égypte, l'autre pouvoir qui était en compétition avec la Syrie. Et là, il dit, donc il s'était révolté contre la Syrie, contre l'Empire, l'Empereur. Et verset 6, « Voici que tu t'es confié dans le soutien de l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Ésaïe a toujours le chic pour nous planter des images dans l'esprit. Ce roseau sur lequel on s'appuie, mais qui est coupé et qui vous rentre dans la main, qui fait que le sang sort et qu'on ça tient pas du tout, c'est une image qu'il est bon pour nous de garder en tête lorsque, au lieu de se confier en Dieu, on se confie dans les choses du monde. L'Égypte est souvent dans la Bible un type du monde qui ne reconnaît pas la puissance de Dieu. Et lorsqu'il dit ça, en fait, il reprend des paroles du prophète Ésaïe. Ésaïe avait dit la même chose. Il avait conseillé, il avait averti. Et là, on voit en fait que les avertissements, les prophéties du prophète Ésaïe viennent à se réaliser. Verset 7, « Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet autel. » Là, le Rabshaké, il a des informations partielles. Il a dit la vérité au verset 6. Verset 7, il commence déjà à raconter un peu n'importe quoi. Parce que Ézéchias, il avait fait disparaître les hauts lieux, mais ces hauts lieux, c'était des collines, des endroits où les gens faisaient des cultes à des dieux locaux, et non, donc à des idoles. Et c'était pas en supprimant ces hauts lieux que Ézéchias avait fait disparaître le culte de Yahvé, du vrai Dieu. Au contraire, il avait rappelé qu'il devait se retrouver à Jérusalem, l'autel du temple. Donc en fait, il a rien compris. Il dit votre Dieu, Ézéchias vient de faire disparaître les temples et les hauts lieux où il est adoré. C'était faux. Au contraire, Ézéchias était un bon roi parce qu'il avait fait revenir il avait fait disparaître ses idoles, ces lieux où ses idoles étaient adorées, et pour revenir à Jérusalem. Verset 8, ce Rabshaké continue en disant « Maintenant, je te prie, fais une convention avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux te procurer des cavaliers pour les monter. » Il vient d'une position de force. Il a la puissance. Il leur dit « Si vous venez à nous, si vous vous rendez, si vous allez être tellement bénis, on va vous donner même 2000 chevaux. Comme ça, vous aurez 2000... Ah, est-ce que vous avez des gens qui savent monter à cheval ?» Ça, c'est le sarcasme du Rabshaké. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon Seigneur? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. Donc il lui dit, tu peux pas ne pas nous obéir, toi qui mets ta confiance au mauvais endroit dans l'Égypte. Et puis verset 10, d'ailleurs est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis montré contre ce pays pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Là c'est un peu surprenant, le païen, le Rabshaké, représentant du roi d'Assyrie, de l'empereur d'Assyrie, dit que c'est l'Éternel qui lui a dit de détruire le pays de Juda, de détruire Jérusalem. Il avait une certaine connaissance du langage et il utilisait ce langage pour faire peur. Vous avez souvent des chrétiens qui ne sont pas tellement consacrés et vous êtes des fois surpris parce qu'ils utilisent le bon vocabulaire, les bonnes expressions. Vous dites, ah, ça c'est un frère, il connaît la parole. En fait, on peut apprendre le vocabulaire, on peut apprendre une langue étrangère, la parler avec un accent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est vraiment un chrétien si on parle en termes chrétiens. Et là aussi, c'est une mise en garde. Quand vous voyez des personnes dans une église, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sont des chrétiens engagés. Et ça, c'est pour vous mettre en garde. Des fois, les jeunes chrétiens ou même des chrétiens plus âgés pensent que s'ils rencontrent une personne ici, ils peuvent lui faire confiance pour tout, les héberger, leur donner de l'argent. Il y a des loups qui se déguisent en agneaux. Et ça, c'est valable aussi pour les jeunes filles et les jeunes gens. C'est pas parce qu'ils connaissent le langage qu'ils sont vraiment sincères dans leur foi. Eliakim, Shebna et Yoa dirent au Rabshaké, c'est donc des responsables, l'intendant du palais, le secrétaire et l'archiviste, disent au Rabshaké, si tu pouvais parler en araméen, l'araméen c'était le langage diplomatique que tous les juifs ne comprenaient pas nécessairement, ne parle pas en judéen, à portée des oreilles du peuple qui est sur la muraille. Ils ne voulaient pas, ces gens de Jérusalem ne voulaient pas que le peuple de Jérusalem entende toutes ces choses, ces menaces, ces vérités, ces contre-vérités. Et bien sûr, le Rabshaké répondit, « Est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ?» Encore une fois, la Bible est graphique. La Bible appelle un chat et un chien. Et là, le Rabshaké dit en fait, je veux que tous ces gens entendent, dire qu'ils se taisent, c'est un peu comme dire à un enfant de ne pas jouer avec tel jouet, c'est le meilleur moyen de lui dire, ah, tu veux pas que je... Et là, il crie, il redresse verset 13 de toute sa force en judéen, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie, ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse pas car il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « Il est certain que l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de vin, de pain et de vignobles. » Qu'Ézéchias ne vous excite pas en disant « L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sepharvaïm ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ?» Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre « Vous ne lui répondrez pas. » Eliakim, fils de Kilk, qui Yahou, intendant du palais, Shebna, le secrétaire, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles du Rabshaké. Le Rabshaké veut semer la peur dans le cœur des habitants de la ville et il leur dit que ne vous faites pas avoir par Ézéchias, votre roi, qui dit qu'il faut vous confier en l'Éternel, que Dieu va vous délivrer. Moi, au contraire, si vous me faites confiance, vous allez pouvoir vivre en paix dans votre pays jusqu'à ce que je revienne. Là, il pensait aller envahir l'Égypte et dominer l'Égypte. Et à ce moment-là, je vous emmènerai dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignobles. Ça, c'est le mensonge. En fait, les Assyriens étaient connus pour leur cruauté et pour leur politique de déplacement de population. Pour dominer les nations, ils les faisaient bouger, ils les emmenaient dans d'autres régions où les gens étaient complètement désorientés, ne pouvaient pas organiser une rébellion. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu aller dans un pays de blé, de vin, de vignobles et de pain alors qu'ils étaient dans une terre découlant de lait et de miel ? Ils étaient très bien où ils étaient déjà. Mais leur ennemi leur dit, si vous faites un pacte avec moi, vous allez voir, je vous emmener dans un endroit encore mieux. Et puis il dit, de toute façon, les rois des autres pays, les dieux, pardon, des autres villes, des autres pays que nous avons dévastés et conquis, ils ne nous ont pas résisté. Pourquoi est-ce que vous croyez que votre Dieu, il serait mieux que les autres ? L'ennemi leur fait douter de Dieu. Ils sont sages, ils ne s'adressent pas à lui, ils ne commencent pas une longue conversation, et ils vont trouver le roi avec les vêtements déchirés en signe de deuil et de tristesse et de chagrin. Encore une fois, c'est intéressant comme histoire, mais si ça n'avait pas une application pratique, ça ne servirait pas à grand-chose. Ce serait un autre épisode de l'histoire. Il y en a plein sur les rayonnages des librairies, des bibliothèques du monde. On voit là un type, une illustration du combat que les chrétiens persécutés font contre les autorités locales, mais au-delà de ces autorités locales, c'est l'ennemi de tous les chrétiens, le diable, Satan, qui nous attaque, qui ne veut pas que nous venions à la confiance en Jésus et qui va nous dire des vérités. Comme au chapitre 7, plutôt au verset 6, sur l'histoire que l'Égypte n'est qu'un roseau coupé sur lequel on s'appuie et on se transperce la main. Des vérités et puis des mensonges. Comme Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux où vous adoriez Jéhovah. Non, il n'avait rien compris, c'est faux ça. Les mensonges purs, vous allez voir, si vous me suivez, vous allez être tellement bénis. Et c'est exactement ce que fait l'ennemi. L'ennemi ne vient pas avec des mensonges à 100%. On les reconnaîtrait. Les sectes ne viennent pas avec des mensonges à 100%. Elles vous disent, ah, on est chrétien. On croit en Christ. Mais quel est leur Christ ? Est-ce qu'il est le frère de Lucifer ? Est-ce qu'il est le frère de Michel, l'archange ? Ou est-ce qu'il est le fils de Dieu, du Dieu vivant qui est venu mourir pour nos péchés ? Et qui règne maintenant avec lui après sa résurrection. Satan nous susurre des mensonges à longueur de journée. Est-ce que vous en êtes conscient ? Tu crois que ton Dieu va t'aider maintenant ? Tu crois que dans la situation où tu es, là aussi il nous susurre des vérités. Il dit, mais tu sais que tu es un pécheur corrompu, vil. Vous pouvez lui dire, oui, je sais, tu ne sais même pas la profondeur de mon péché, mais en Jésus-Christ, j'ai un sauveur qui efface mon péché. Mais Satan veut que vous vous morfondiez dans votre culpabilité, que vous ne cherchiez pas l'aide de Dieu. Il ne veut pas que vous fassiez confiance à Dieu. Il attaque votre foi. Est-ce qu'aujourd'hui votre foi est attaquée ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent impossibles ? Est-ce qu'il y a des choses que vous espériez qui ne sont pas encore arrivées ? Et vous vous dites, c'est vrai, finalement, Dieu n'est qu'un petit Dieu, il ne m'a pas exaucé. C'est un mensonge. Est-ce que vous le savez ? Continuons. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, se rendit dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il entend ces menaces, lorsqu'il entend la situation désespérée, il faut savoir encore que les Assyriens étaient réputés pour leur cruauté. Ils enchaînaient leurs esclaves avec des crochets, des hameçons dans les lèvres pour les tirer, pour les faire marcher. Ils leur enlevaient les yeux des orbites. Ils étaient d'une cruauté sans pareille. Devant cette menace terrible, le roi, qui était un bon roi, se rend dans la maison de l'Éternel. Il envoya ses intendants, on a parlé d'eux, Eliakim, Shebna et son Yoas sans doute. Il les envoie chez les anciens des sacrificateurs, et plutôt avec les anciens des sacrificateurs, il les envoie voir le prophète. Il va à la maison de Dieu, il veut se tourner vers Dieu, il se tourne vers quelqu'un qui connaît Dieu, qui reçoit des paroles de Dieu, et ils lui disent au verset 3, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a de point de force pour l'accouchement. » Encore une image terrible, c'est la faiblesse des gens, même les mamans sont sur le point d'accoucher, mais elles n'ont plus la force de pousser, de faire naître ses enfants. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles du Rabshaké que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'a entendues l'Éternel, ton Dieu. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Il demande au prophète de prier pour la situation. Il se tourne vers la prière. Est-ce que ce qu'ils invoquent, ce n'est pas le fait qu'ils risquent de souffrir, qu'ils risquent d'être perturbés dans leur petit confort? Non, ils prennent l'honneur de Dieu qui a été insulté, le Dieu vivant. Ça nous rappelle David contre Goliath. Ce qui le rendait fou de colère, c'était de voir son Dieu insulté. Est-ce que ça vous rend fou de colère lorsque votre Dieu est méprisé, votre Dieu est déformé, votre Dieu n'est pas respecté, votre Dieu est caricaturé? Faites appel à l'honneur de Dieu. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Il leur dit, ne vous en faites pas, parce que vous avez prié, tu peux dire au roi Ézéchias, tu as prié, Dieu va répondre, il va agir, il va défendre son honneur. Trop souvent, on pense qu'on doit défendre l'honneur de Dieu. Vous pouvez demander à Dieu de défendre son honneur lui-même. Il le fait mieux que vous. Lorsque le diable frappe à la porte, allez faire ouvrir la porte par Jésus. Le Rabshaké s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas. En disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays. Ils les ont voués à l'interdit et toi tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Il nomme plusieurs endroits. Où sont les rois de plusieurs villes? Ézéchias, verset 14, prit la lettre des mains des messagers, la lut et il monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Le Rabshaké s'aperçoit que oui, il y a une nouvelle qui est arrivée, le roi d'Éthiopie qui dominait l'Égypte s'approche, et donc le roi d'Assyrie a décidé de ne pas attaquer Jérusalem tout de suite, mais il leur dit, mais ne pensez pas que ça va, on ne va pas vous envahir et vous conquérir. Et le roi prend la lettre qu'il a reçue de ce Rabshaké, et il va la déployer devant l'Éternel. Lorsque vous avez des mauvaises nouvelles, lorsque vous avez des choses terribles, allez les présenter à Dieu, demandez-lui son aide. La prière qui suit est un exemple qui montre que Ézéchias sait à qui il adresse sa prière. Il pria l'Éternel en ces termes, verset 16, « Éternel des armées, la puissance de Dieu, pour appeler des légions d'anges, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins, allusion à la présence de la gloire de Dieu sur l'arche de l'Alliance, sur le couvercle entre les deux anges. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé tous les pays et leur propre pays en jetant leurs dieux au feu. En fait, cela n'était pas des dieux, mais des ouvrages de main d'hommes, du bois, de la pierre, et les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. » Alors Ésaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, à qui tu as adressé ta parole, ta prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. » C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Ézéchias vient se poser au pied de Dieu ses fardeaux. L'apôtre Pierre nous dit « Déposez à ses pieds vos fardeaux ». Il rappelle que les dieux qui avaient été vaincus par la Syrie ou les peuplades qui avaient des dieux qui n'étaient en fait que des idoles. Mais il sait qu'il s'adresse au Dieu vivant, au Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que lorsque vous priez, vous savez à qui vous vous adressez? Est-ce que vous êtes rempli de confiance? Ou est-ce que l'ennemi vous dit « Oh, tu as trop péché, maintenant il ne t'écoute plus ». C'est faux. L'ennemi veut vous détourner du secours qui est en Dieu. Et c'est une façon de voir la différence entre la condamnation et la conviction. L'Esprit Saint va vous convaincre de péché, va vous dire ce que tu fais est mal, tu dois demander pardon à Dieu. La condamnation qui vient de Satan va dire ce que tu fais est mal, tu ne peux plus même t'adresser à Dieu, va-t'en loin de lui et oublie-le. Le prophète prononce la sentence que l'Éternel a adressée à Sennachérib, le roi d'Assyrie, verset 22. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et bafoué? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par l'intermédiaire de tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur. Lorsque Saül persécutait l'Église, il persécutait Jésus. Lorsque le Rabshaké menaçait le peuple de Dieu, il insultait Dieu, il insultait le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi la cime des montagnes au plus profond du Liban. Je coupe les plus élevés de ses cèdres. Bref, il dit qu'il est tout puissant, qu'il a bu il a creusé des puits, il est tout puissant pour faire tout ce qu'il veut. N'as-tu, verset 26, n'as-tu pas appris que j'ai fait ces choses depuis longtemps, que dès les jours d'autrefois je les ai formées? Ça, on pense que c'est Dieu qui dit à ce Rabshaké, tu réalises qui tu es, une petite créature. Moi, c'est moi qui ai créé ces ressources qui t'entourent. Maintenant, je les fais venir et les villes fortes, verset 26, seront réduites à ne plus être que des monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, ils ont peur, ils ont honte, ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le champ avant qu'il y pousse des tiges. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. On retrouve ça dans le psaume 139. Avant que j'ai fait ça, avant que je me bouge, Seigneur, tu sais exactement ce que je vais faire, tu sais ce qui est dans mon cœur. Il savait exactement ce que faisait cet empereur. Et quand tu t'emportes contre moi, parce que tu t'emportes contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Je vais te faire subir le même traitement que tu fais subir à tes esclaves. Que ceci soit le signe pour toi. On mangera cette année le produit du grain tombé, et la suivante, ce qui pousse de soi-même, et la troisième année, semer, moissonner, planter des vignes et manger en le fruit. Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés produiront encore des racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ils pourront vérifier les paroles, la prophétie, parce que comme ils n'ont pas eu le temps de semer, ils n'en vont avoir comme récolte que les choses qui poussent naturellement. Et la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez et vous mangerez les fruits de cela. Vous verrez donc, ils pouvaient déjà voir dans la provision des récoltes, la prophétie se réaliser. Et un thème qui revient, c'est que de Jérusalem va sortir un reste. Aujourd'hui, le peuple juif, dans sa majorité, a rejeté le Messie. Ils attendent toujours un Messie. Ils veulent un Messie glorieux qui va les rendre les plus puissants. Et la Bible nous assure que du peuple juif va venir un reste, c'est-à-dire un grand nombre de personnes qui vont croire que Jésus est le Messie. C'est un thème qui revient dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Dieu n'a pas fini avec Israël. L'enseignement qui dit que Israël a été déplacé au profit de l'Église, c'est un mensonge. Il suffit de lire la Bible. On ne peut pas, sans arrière-pensée antisémitique, anti-sioniste, anti-juive, croire que Dieu a oublié son peuple. Dieu nous met même au défi. Il dit, si vous croyez que je vais oublier mon peuple, vous n'avez rien compris. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Vous connaissez des gens zélés, des gens qui bossent dur, des gens qui sont toujours motivés. Imaginez ça, la puissance de Dieu. Non seulement il a le zèle, mais il a les ressources, il a des armées. Les armées, Jésus disait qu'il pouvait appeler des légions, des myriades de légions. Des myriades, c'est 10 000. Des légions, ça contenait des milliers d'hommes. Il a une puissance incroyable. Nous devons prier pour nos frères persécutés, que ces réalités, ils les vivent dans leur cœur. Nous qui ne sommes pas vraiment persécutés, sauf psychologiquement, ou ça arrive, la persécution, on en a parlé avec Portes Ouvertes, on doit faire totalement confiance à Dieu. On est en train d'étudier le livre des Actes le mardi, et on voit la puissance de Dieu lorsqu'on le prend à sa lettre, lorsqu'on croit que ce qu'il dit est la vérité. Et il n'a pas changé, le Dieu du livre des Actes, il est le Dieu d'aujourd'hui. Il peut délivrer. Et puis finalement, il parle du roi d'Assyrie. Il va pas entrer dans sa ville. Il va pas du tout attaquer Jérusalem. Il va même pas lancer de flèches. On va pas lui opposer de bouclier. Il va pas élever des retranchements. Il va pas faire des monticules pour monter assiéger la ville. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Il n'entrera pas dans cette ville. Oracle de l'Éternel. Je protégerai cette ville, verset 35, pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Dieu fait des grandes choses, pas pour nous, mais pour son nom et pour les promesses qu'il a faites. C'est son honneur, sa souveraineté, sa gloire, sa magnificence qui est en jeu, et Dieu est jaloux de sa gloire. On peut penser que c'est un peu égoïste, parce qu'on a l'image des hommes qui font ça, mais la gloire de Dieu, c'est sa caractéristique. Il est glorieux, il est puissant, il est majestueux. Et le résumé, verset 36, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'était tous des cadavres. 185 000 hommes. On parlait tout à l'heure du prénom de Jessaline, 192 249e position. Elle aurait échappé. Ou une personne dans cette position aurait échappé. Mais là, 185 000 modes, toutes les troupes. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, partit, on comprend, s'en alla et retourna pour résider à Ninive. Or, comme il était prosternateur dans la maison de Nisroch, son dieu, alors Nisroch, ce n'est pas un groupe jazz de Nice, c'était son dieu, ses fils Radamélec et Saretser le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Son fils Esar-Hadon régna à sa place. La tradition explique qu'il avait entendu qu'Abraham avait sacrifié son fils pour apaiser Dieu et que ses deux fils auraient entendu qu'il voulait les sacrifier ainsi. Et avant qu'ils puissent mettre la main sur eux, ils avaient mis la main sur lui. On voit la prophétie d'Amots, du fils d'Amots, Esaïe, se réaliser. Nous devons faire totalement confiance à Dieu. Si vous êtes son enfant, n'allez pas chercher le secours dans les ressources humaines. J'ai toujours aimé ce terme maintenant. Avant, on parlait du département de l'emploi, mais maintenant, c'est joli, c'est le département des ressources humaines. Les ressources humaines, elles sont très faibles, mes amis. Vous voulez les ressources divines. Vous cherchez du travail ? Priez. Plutôt que d'aller voir les ressources, le département des ressources humaines. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est toujours si pertinente. Elle nous reprend dans notre manque de foi, dans les attaques que nous avons à subir de la part de l'ennemi qui veut détruire notre foi. Tu nous dis de prendre le bouclier de la foi contre les traits enflammés du malin. Il sait que s'il peut nous décourager, comme le Rabchaké voulait décourager ses habitants de Jérusalem, il a gagné. Il ne veut pas que nous engagions le combat parce que nous venons avec Jésus. Il veut simplement nous faire éviter le combat. Et peut-être que vous avez un combat que vous menez contre des péchés habituels, contre des tendances, contre des choses que vous savez être mal. L'ennemi veut vous faire croire qu'il n'y a aucun espoir, que Dieu en a fini avec vous, qu'il vaut mieux, au contraire, venir à lui, qu'il va vous donner plein de bonnes choses, le plaisir que, promis par le péché, vous allez vous régaler. Sachant que ce ne sont que des mensonges, Seigneur. Aide-nous à nous en tenir à ta parole, à tes promesses, à être plein d'un zèle pour proclamer la vérité, Seigneur. Et aujourd'hui, nous pensons à tous nos frères qui vivent une persécution physique. Seigneur, nous vivons une persécution spirituelle, mais eux, c'est au quotidien, c'est la vie, c'est la mort, c'est les emplois, c'est la menace sur la famille, c'est le prix à payer pour te suivre, Seigneur. Bénis-les, fortifie-les, donne-leur de te faire confiance et de voir que cette confiance n'est pas en vain, Seigneur. Nous prions pour des réveils dans ces pays menacés par l'islam, subjugués par l'islam. Seigneur, nous prions pour notre pays, nous prions pour notre témoignage auprès de nos frères et sœurs musulmans, Seigneur, auprès de nos voisins musulmans. Nous te remercions pour eux, ce sont des hommes que tu as créés, Seigneur, qui ont été aveuglés. Ouvre leurs yeux, permets-nous d'être de bons et fidèles témoins, pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.